Ben. Dans ce journal, on parlera des législatives avec le programme des trois candidats reçus hier sur Radio 1, de surf avec le photographe Tim McKenna et de Onati qui assure que son réseau est stable et opérationnel. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Trois candidats aux législatives étaient au micro de Radio 1 hier.
Oui, à commencer par Tematei Le Gaïc, le député Tavigny de la première circonscription, candidat à sa succession. Le plus jeune député de la République a à cœur de faire comprendre à quel point il a été occupé à Paris depuis 2 ans. C'est lui qui avait fait la proposition de faire passer les communes de la tutelle de l'État à celle du pays. Une proposition qui avait choqué l'État Vana et des élus de son propre camp, puisque on se rappelle qu'Oscar Temeraud lui-même avait réagi. Il faut bien que jeunesse se passe, avait-il dit. Pour Tematei Le Gaïc, c'était une façon d'interpeller le gouvernement français qui devrait donner davantage de compétences aux archipels. Il insiste pour que ce débat ait lieu.
Il faut qu'il y ait une réforme en profondeur puisque le dispositif juridique qui accompagne aujourd'hui les communes, qui est le CGCT, n'est pas adapté à la Polynésie. Et donc j'étais favorable à ce qu'il y ait un code des communes polynésien, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie, pour que les modifications statutaires des communes puissent se faire à l'Assemblée de Polynésie et plus à chaque fois à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut que ce débat ait lieu.
La citoyenneté maori, l'élection du président du pays au suffrage universel ou encore l'évolution des lois du pays en vraie loi sont les grands sujets qu'il veut continuer à défendre. La défiscalisation nationale fait également partie de son programme car il craint de nouvelles restrictions.
En tant que rapporteur du budget Outre-mer, nous avons fait face à une réduction des secteurs éligibles à la défiscalisation lors du dernier projet de loi de finances. Et la ministre des Outre-mer nous a averti qu'il allait encore y avoir des secteurs d'activité qui ne seront pas éligibles parce que dans le mindset de Bercy aujourd'hui, la niche fiscale défiscalisation doit dépérir et doit disparaître. Tout ce qu'on propose, un partenariat entre l'État et le pays pour dire, il faut qu'on cible les secteurs prioritaires pour le pays et vous venez nous accompagner sur ces secteurs prioritaires.
Tematei Le Gaïc avait gagné son siège en 2022 avec seulement 50,1% des voix. Il ne fait pas de pronostic face à Moerani Frebo, mais il insiste, il est important que le nouveau Front populaire avec qui il siégera puisse avoir la majorité.
De son côté, Jules Awata met le changement climatique au cœur de son programme.
Le candidat de Heyura Les Verts sur la 3e circonscription veut répondre à l'urgence climatique et placer cette problématique au centre des débats. Le développement de l'énergie thermique des mers est en tête de la profession de foi du parti. Une solution pour sortir des énergies fossiles, comme le SWAC par exemple, qui pourrait refroidir les établissements publics. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de pétrole, notre océan, a-t-il dit. Cet ancien pompier de Paris passé par l'armée régulière est aussi très intéressé par la thématique des déchets, d'autant qu'il habite à Faa, une commune où le tri n'existe toujours pas. La décharge de Moumouveil est d'ailleurs régulièrement la cible de critiques et d'attaques en justice, autant pour des questions environnementales que foncières.
Aujourd'hui, je dis qu'il y a quelque chose à faire au niveau de notre dépotoir. Déjà, dans le foncier, il faudrait peut-être réfléchir parce qu'il y a des associations qui demandent aussi à ce qu'on leur réintègre leur parcelle. Ça, c'est un domaine foncier. Mais aussi le recyclage. Il me semble qu'aujourd'hui, le recyclage est primordial. Il existe des associations, je crois que c'est sur le côté de Marina, qui recyclent des produits qui fonctionnent très bien parce qu'il y a des petits détails qui font que ça ne marche plus. Mais il y a une association qui revalorise ces déchets. Déjà là, nous avons gagné.
Selon lui, l'écologie doit trouver une place centrale dans la société, notamment au travers de l'éducation et de la formation. Un choix de vie, comme il l'explique.
C'est vrai que c'est assez dur parce qu'on a eu quand même des années de gouvernance, on peut dire plus de 40 ans, où on a gavé les gens, on leur a tout promis et on ne leur a pas expliqué que, par exemple, ta machine à laver, si elle est abîmée, demain, tu peux économiser en le faisant réparer, peut-être à 2-3 euros de réparation et vous avez une autre machine qui pourrait marcher 5 à 6 ans en plus. Ça, c'est une question d'éducation. Donc, aujourd'hui, il va falloir leur donner le modèle, faire des exemples, une simulation, et puis expliquer, faire la démonstration par A plus B que nous pouvons y arriver. C'est vrai que c'est dur, mais c'est un choix. C'est un choix de vie.
Il souhaite également une surveillance accrue de la zone économique exclusive du Fénois. Elle pourrait passer par l'assermentation des capitaines de caboteurs et tonniers qui s'engageraient dans une logique de développement soutenable. Le Parti écologiste défend aussi un moratoire sur l'exploitation des ressources minérales sous-marines. Et enfin, en cas d'élection, il siégera avec Europe Écologie Les Verts, membre du nouveau Front populaire.
Quant à Pascale Haïti-Flos, elle se dit confiante.
Elle parle bien sûr de son recours devant la Cour de cassation. Elle a été condamnée à 3 ans d'inéligibilité en avril dernier dans l'affaire du faux bail de la rue Cardella et elle espère l'annulation de sa peine. Mais ce sont les électeurs qui pourraient lui en tenir rigueur. En cas de victoire, son dossier prioritaire sera les indemnisations des victimes des essais nucléaires. Elle demandera une extension de la liste des maladies radio-induites.
Un des dossiers qu'on pourrait de suite répondre, c'est celui qui est sur le nucléaire. L'année prochaine, la convention pour la prolongation de l'instruction des dossiers se termine l'année prochaine. Il faut la proroger de 5 ans. C'est ce qui a été demandé au député Arbelot, qui ne l'a pas fait, qui crée une commission d'enquête alors qu'il n'y a aucune nécessité. Ensuite, d'augmenter la liste des maladies. Ça, c'est vraiment important et urgent. Je pense qu'on pourrait le concrétiser le plus rapidement possible.
Elle cite aussi le dossier de l'indemnité temporaire de retraite, la fameuse ITR. Donc nucléaire et fonctionnaire, ce sont aussi les sujets de prédilection de son adversaire sur la 3, Myriana Red Arbelot. Elle reconnaît que certains lui disent qu'elle a été envoyée au casse-pipe. La troisième circonscription n'était pas le premier choix de Gaston Floss pour son parti, mais elle estime que l'Union autonomiste la favorise. Et pour Pascal Haïti, il faut envoyer à Paris des personnalités politiques plus expérimentées. Il y a eu trop de jeunesse, dit-elle en parlant des députés sortants. Et enfin, où siégeront les candidats du Hamuitato s'ils sont élus? Pascal Haïti botte en touche.
On ne s'est pas positionné, on en a discuté, mais je pense qu'il faudrait attendre une réunion entre les patrons des partis, de chaque parti, c'est-à-dire Edouard Fritsch, Nicole Sonquer, M. Gaston Floss, ainsi que Tevaro Fritsch, pour bien en discuter quelle est la stratégie qu'on souhaite mettre en place d'abord pour la Polynésie, et pour l'instant, on ne peut pas se prononcer.
Premier tour des législatives le 29 juin et le second le 6 juillet en Polynésie française. Et on vous le rappelle, les candidats aux législatives sont en direct sur Radio 1 tous les jours jusqu'à demain. Retrouvez aujourd'hui Nicole Sanquer du Hamuitato, Tati Salmon des Verts et Toutou Tétouanoui du RN à 11h30.
Élection toujours avec cette question de Nuit Hao l'oreille.
Oui, ce sera ce matin à l'Assemblée. Le représentant Aereya Porinetia remettra le mode de scrutin des territoriales sur le tapis. Selon Tahiti Info, il dénonce un système électoral comme l'un des plus antidémocratiques au monde. Le seuil de passage au second tour fixé à 12,5% des voix est trop haut selon lui. Il prend l'exemple des élections européennes où ce seuil est fixé à 5%. Et donc ce seuil de 12,5% oblige toujours selon Nuit Hao l'oreille à des unions contre nature. Il restreint l'offre politique et favorise l'abstention. Et enfin, il exclut de l'expression politique une partie grandissante de nos concitoyens. Aereya Porinetia déposera donc une proposition de résolution visant à réformer ce mode de scrutin avec une baisse du seuil pour arriver au second tour et une réduction de la prime majoritaire. Reste à connaître la position du gouvernement sur ce sujet.
On parle de culture et de sport avec ce nouveau livre.
Et celui de Tim McKenna, il photographie la vague de Te Ahupo depuis près de 30 ans. Il connaît donc bien la fameuse mâchoire de Hawaï. Après un premier livre sur Te Ahupo, la vague mythique de Tahiti, publié en 2007, traduit en 6 langues et vendu à plus de 35 000 exemplaires, il sort ce deuxième ouvrage sur la vague, véritable miracle au bout de la route. 250 clichés, mais aussi des interviews et des témoignages de surfeurs, notamment celui de Laird Hamilton, héros de la vague du millénaire prise en l'an 2000 et qui a fait la une de Surfer Magazine avec ces quelques mots « Oh my God ». Tous racontent leur fascination de cette masse d'eau imposante.
Le livre est assez gros, il y a 250 pages, donc je voulais des histoires, qu'on puisse poser le livre, revenir le prendre une semaine après. Et du coup, je voulais aussi des signatures, des gens un peu connus. J'ai réfléchi, puis j'ai demandé à des surfeurs, à des amis, et que ce soit vraiment hétéroclite, quoi. Il y a des anciens champions, il y a des vrais journalistes, il y a des écrivains. Voilà, je voulais que ce soit varié pour qu'il y ait vraiment des histoires sympas.
Les codes rouges, la victoire de Vahine Fiero sur la Tahiti Pro, Jamie O'Brien qui surfe en étant littéralement en feu, ou encore les frères Drolet attendant 9 heures la bombe qu'ils finiront par avoir, l'une des plus grosses vagues jamais immortalisées à Te Ahupo. Parmi les grands noms du circuit, les champions d'aujourd'hui, il y a aussi ceux qui ont connu leur jour de gloire, comme le surfeur Arioe Tefafana, immortalisé sur une bombe le 17 août 2019. S'il a renoncé à percer au plus haut niveau mondial, il est devenu aujourd'hui journaliste, mais il salue le travail des photographes comme Tim McKenna qui permettent aux Tahitiens de vivre de leur passion.
Déjà pour percer dans le monde du surf, c'est carrément pas facile, et le fait d'avoir des photographes et des vidéastes comme Tim justement à Tiahupo, et ben ça aide nos surfeurs locaux à se faire connaître en restant à la maison. Les photos font le tour du monde et tout, et le surfeur n'a pas besoin de s'exporter, et du coup ben, il n'a pas besoin d'avoir ce coût financier justement pour se faire connaître et espérer avoir une carrière professionnelle. Justement comme Mathieu Drolet qui a pris ce chemin-là, qui s'est fait connaître à Tiahupo et maintenant il vit de sa passion à Tiahupo. Et justement c'est aussi grâce à tous ces photographes et à tous ces vidéastes.
Aujourd'hui, la vague dont la réputation est internationale envoûte toujours autant le photographe, même s'il a des envies d'ailleurs.
Pour être franc, j'ai vraiment envie d'aller découvrir d'autres vagues. Et la vague est tellement médiatisée aujourd'hui que c'est vrai que quand il y a des grosses houles, j'ai un peu moins envie d'y aller parce que c'est vraiment un peu la foire. Il y a des bateaux de partout, il y a beaucoup de taxi-bots, on n'arrive plus à travailler comme on pouvait travailler avant. Et puis quand on a connu la vague dans des conditions magnifiques et en étant tout seul, en étant pratiquement le seul photographe, pendant des années, il fallait que j'appelle des surfeurs. C'est vrai que les choses ont changé, donc j'ai peut-être pas la même envie qu'avant. Mais bon, je sais qu'à chaque fois que j'y vais et que je vois des vagues, je reste scotché devant.
Il sera bien sûr au PK0 dès la mi-juillet pour les Jeux Olympiques, un événement qu'il n'aurait jamais imaginé vivre à Tiahupo. Et il sera en dédicace à la librairie Odyssée le samedi 22 juin et à Carrefour Punaoya le samedi 29.
On reste dans le sport, mais du foot cette fois.
Il s'agit de la Coupe des Nations d'Océanie. Après le match nul entre Tahiti et la Papouasie-Nouvelle-Guinée mardi, la sélection tahitienne a rendez-vous avec Fidji vendredi. Pour se qualifier en demi-finale, il faudra assurer un match nul. Une victoire serait encore mieux car elle leur permettrait de prendre la tête du groupe et donc d'éviter le premier de l'autre groupe en demi-finale, très probablement la Nouvelle-Zélande.
Pour terminer, ce geste commercial de Vigny.
Oui, après les coupures du 13 et 14 juin, Onati offre à ses clients mobiles des crédits Internet. Ils sont valables jusqu'à la fin du mois. Rien n'est annoncé pour les clients de l'Internet fixe qui ont aussi été touchés. Et si les problèmes qui ont affecté son réseau les 13 et 14 juin derniers sont complètement résolus, leur cause, en revanche, n'est toujours pas trouvée. Alors y a-t-il de l'inquiétude avec les Jeux Olympiques qui arrivent? Eh bien, pas du tout. Le réseau est maintenant stable et opérationnel et une équipe de techniciens dédiés et des mesures de sécurité renforcées garantiront un service continu et sécurisé, assure Onati. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information dans quelques minutes pour la revue de presse. Et on vous rappelle ce rendez-vous à 11h30 avec trois candidats aux législatives. Aujourd'hui, Nicole Sanker,